voyez avec nous. Vous avez la langue bien pendue, bon sang. Nous reprenons numéro 17.
Notre série de Noël, l'Opéra s'amuse, le quatrième épisode aujourd'hui de Madame Angot au chanteur de Mexico.
C'est une affaire de prédestination. On est acteur d'opérette, n'est-ce pas? Pour chanter l'opérette, il faut des qualités tout à fait spéciales. Il faut tout de même penser que le genre opérette est un des plus difficiles qui soit. Il ne suffit pas d'avoir de la voix, et même de savoir s'en servir, pour être un acteur d'opérette. Le physique compte.
On entendait Maurice Lehmann, le pâtissier, le nôtre d'ailleurs, a du mal à créer un gâteau, mais ce qui sera nommé opérette ou opéra comique, il aura, paraît-il, la forme d'un saint, le saint de Marianne. Et c'est justice. La Troisième République a en effet beaucoup aimé l'opéra comique comme l'opérette. Lecoq en a incarné la première période. Le jour, des hommes en noir un peu sévères siégeaient dans les chambres. Et le soir, on s'amusait en tout bien, tout honneur avec la chaste fille de Madame Angot. Dans les décennies suivantes, le succès perdura. L'élégance l'emporta avec André Messager ou Reynaldo Hahn, ou bien ce fut la joyeuseté. Quand la jeune héroïne de Maurice Yvain ne voulait pas être embrassée sur la bouche, chacun l'entendait comme il voulait, mais certains comprenaient qu'elle refusait aussi que sa bouche devint ce que la morale catholique d'alors nommait un vase illégitime. Comprenne qui pourra. C'est ça l'opérette d'avant-guerre, un genre d'essence lyrique, mais un édifice de subtilité qui reposait sur un sous-texte sophistiqué. C'est à la même époque que la France s'entichât du musical, tandis que les États-Unis mettaient au point la comédie musicale. Deux genres encore plus consommateurs d'effets de masse. Un producteur français importa ici les produits finis ou les caractéristiques principales de la comédie musicale. C'est Maurice Lehmann, encore lui, qu'on a entendu en exergue. L'opérette dont il parle, ce n'est plus celle de Maurice Yvain. C'est un grand spectacle qui doit impressionner autant qu'amuser. Son temple, pendant 30 ans, devient le Châtelet, où un duo garantit le succès, Francis Lopez et Luis Mariano.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Bon, nous avons notre duo depuis le début de la semaine. Je ne vais pas les nommer Lopez et Mariano. Je ne sais pas si ça leur ferait plaisir. Philippe Gimplowitz.
Bonjour.
Je ne sais pas comment vous définir. Vous avez piloté un recueil aux presses universitaires de France. Il faut être sérieux. Qui s'appelle Faiseur d'histoire. On va dire que vous êtes faiseur d'histoire avec Jean-Claude Yon. Alors Jean-Claude Yon, on le connaît depuis le début de la semaine comme un spécialiste d'Offenbach. Eh bien, on va commencer par le rival d'Offenbach, Lecoq. Charles Lecoq, Offenbach organise un peu la concurrence avec lui en le promouvant dans un concours en 1856.
Bonjour. Effectivement, pour lancer son théâtre Les Bouffes Parisiens, Offenbach, en 1856, va organiser un concours d'opérette avec deux vainqueurs ex aequo qui ne sont pas n'importe qui, puisqu'il s'agit d'une part de Bizet et d'autre part de Lecoq. Mais malgré donc ce succès au milieu du Second Empire, Lecoq va avoir un petit peu de mal à lancer sa carrière, et Offenbach est tellement dominant, c'est vraiment à la fin des années 60 qu'il monte en puissance, et puis surtout c'est le succès vraiment extraordinaire, c'est un phénomène culturel incroyable que ce succès de La fille de Madame Angot en 1872-73 qui lance sa carrière.
Alors 1872, d'abord à Bruxelles, ensuite à Paris en 1873, enfin Jean-Claude Dion est un grand spécialiste, Philippe Gimplowitz, du Second Empire, et il a évacué là, 1872 10, la
les
défaite,
broutilles,
1871, la commune, le climat change, est-ce que la France oui. a encore un avenir, et l'opéra comique et l'opérette?
Ah bah alors écoutez, pour ce qui est de la France, 1872, on est dans un entre-deux, ce n'est plus l'Empire, ce n'est pas encore la République, et le sujet de Madame Angot, c'est le Directoire, et le Directoire, ce n'est plus la République et ce n'est pas encore l'Empire. Donc il y a quelque chose qui résonne de ce côté-là, et ce que raconte Madame Angot, c'est le Directoire, donc cette époque très très indécise, où ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. C'est le moment des incroyables, des merveilleuses, des accaparateurs, des profiteurs de la Révolution. Il y a toute une ambivalence française à l'égard de la Révolution qui s'exprime dans la France de Madame Angot, à savoir, on aime bien renverser la table, mais on aime bien également qu'une fois la table renversée, les plats se retrouvent tels qu'ils étaient, placés au même endroit sur la table. Et donc, ces profiteurs, on les supporte, mais à peine.
Clairette, la fille de Madame Angot, elle est amoureuse d'un chansonnier royaliste qui s'appelle Pitou, mais on veut la marier à Pomponnet. Mais si elle chante une chanson de Pitou, hostile au directoire, elle sait qu'elle ira en prison. Et en prison, il y a assez souvent Pitou, et Pomponnet ne va pas vouloir se marier avec elle si elle chante des chansons si dangereuses.
Jadis, les rois, race proscrite, enrichissaient leurs partisans. Ils avaient maintes favorites, sans flatteur mille courtisans. Sous le directoire tout change, pourtant ne vous y fiez pas. On dit mademoiselle Lange, la favorite de Barras. Barras est roi, Lange est sa reine, ce n'était pas la peine, ce n'était pas la peine, non pas la peine, assurément. Changer le gouvernement.
Barras et roi, Lange et sa reine, ce n'était pas la peine, ce n'était pas la peine, non pas la peine, assurément, de changer le gouvernement.
L'orchestre et les chœurs lyriques de la radio, sous la direction de Jules Gressier, avec dans le rôle de la fille de Madame Angot, Monique Linval.
Avec le personnage d'Ange Pitou, le chansonnier, on voit bien quand même que l'opérette de Lecoq, là, revient à la chanson qui est une des sources de l'opérette et de ce théâtre musical léger.
Et dans ce qu'on vient d'entendre, il y a couplet-refrain. Enfin, c'est vraiment une chanson avec reprise du chœur à la fin. On est dans la forme la plus classique de la chanson.
Et puis cette formule quand même extraordinaire, ce n'était pas la peine assurément de changer de gouvernement, qui a eu un succès extraordinaire. Je rappelle quand même que l'œuvre a été jouée 400 fois de suite. C'est un succès étourdissant dans les théâtres au tout début de la Troisième République.
Et on était sous le gouvernement de Monsieur Thiers et l'année de la libération du territoire. Attendez, c'est la fille de Madame Angot. Oui. C'est pas Madame Angot. Bientôt, il y aura l'ordre moral pendant quelques années au début de la Troisième République. La fille de Madame Angot se tient dans l'ombre d'un type social très populaire, très ancienne extraction.
Comme la naissance de Cadet-Roussel, la naissance de Madame Angot est obscure. Le bouleversement des fortunes avait mis en relief, dans Paris, quelques boutiquières enrichies dont l'éducation et le langage ne correspondaient pas au luxe qu'elles affichaient. Madame Angot n'était pas encore née, mais c'est dans ces circonstances que les Français prirent vaguement conscience du type nouveau qu'elle allait représenter. 50 ans plus tard, on trouve dans les œuvres badines et poissardes de Vadet, comme dans les petites pièces qui se jouaient à la Foire Saint-Laurent, le boulevard du Temple, une certaine Madame Engel qui est à coup sûr la préfiguration immédiate de Madame Angot. Si ce personnage connut immédiatement et durablement la faveur populaire, c'est parce qu'il correspondait à une réalité sociale de l'époque et parce qu'il vengeait, et de la meilleure vengeance, par le rire, parce qu'il vengeait les Parisiens de leurs affameurs.
C'est pas tout ça, je suis dans mon coup de feu. Je reçois tantôt une bande d'altesses, de duchesses, de princesses, et les deux sœurs du petit tondu, de sucrés qui peuvent pas dire bonjour sans se passer les lèvres en cul de poule et se tortiller du reste. Il faut que je leur fasse des révérences, des salutations et tout le tremblement. Alors que je me suis dit, ben des préaux, c'est son affaire à cet homme-là, toutes ces singeries-là.
Trop heureux.
On a mêlé, parce que nous sommes dans un genre mixte, ici une conférence très sérieuse de Francis Ambrière, le fondateur des Guides Bleus, puis un extrait du film Madame Sans Gêne avec Arletty, parce que Madame Sans Gêne, Madame Angot, Madame Angot, c'est le même filon.
Ben oui, Fort Angot, c'est le filon originel des théâtres de la foire, c'est le genre poissard, c'est le qui va donner après le genre gouailleur, c'est les Dames de la Halle qui s'expriment avec ce parler, ces accents parisiens qui ont totalement disparu aujourd'hui. Vous parliez, Jean, de la fille de Madame Angot, elle s'appelle Clairette, elle. Donc, elle essaye de réparer par ça une quasi-virginité, parce qu'en fait, elle épousera sur le même palier ses origines un petit peu délicates.
Jean-Claude Dion, le succès de Lecoq va continuer au-delà de Madame Angot, au grand dame d'Offenbach, qui s'accroche qui fait théâtre, qui dirige à partir de 73 et qui ne veut pas décrocher.
Qui fait même mieux que s'accrocher, en fait, puisqu'il dirige la Gaîté de 73 à 75 et il monte des spectacles d'un faste incroyable qui, d'ailleurs, ont comme admirateur Mallarmé, ce qu'on n'imaginerait pas au premier abord, et qui marque une étape dans peut-être ce qu'on pourra appeler plus tard le musical. Mais Lecoq, oui, c'est l'homme des années 70, du début des années 80. Il meurt très tard, en 1918, mais sa carrière ensuite est moins glorieuse. Et puis, après la mort d'Offenbach en 1880, on a une nouvelle école d'opérette plus sage. Et là, on entre un peu dans ce qui sera le stéréotype de l'opérette petite bourgeoise qui célèbre des vertus moyennes et qui n'a plus ce côté corrosif qu'avait Offenbach et même Lecoq.
Oui, mais une génération plus tard, si on pense à quelqu'un comme André Messager, qui est d'une autre trempe, voilà que l'opérette réintègre la grande famille de l'art lyrique avec un A majuscule, parce que c'est un musicien extraordinaire qui peut tout faire, Messager.
Oui, bah Messager, c'est le chef d'orchestre, c'est lui qui dirige Péléas à la première. C'est un Wagnerien, pour faire un anachronisme.
C'est un organiste aussi.
C'est un organiste, oui, c'est un Leonard Bernstein, un siècle à l'avance, quoi, capable composer, diriger, orchestrer, très très bon instrumentiste.
Oui. Et c'est aussi d'ailleurs un grand directeur, puisqu'il a dirigé l'Opéra de Paris, à partir de 1908, avec d'ailleurs un autre directeur, Lémistan Broustin, qui était un drôle de personnage. Et c'est lui qui va vraiment, le wagnerisme avait commencé des années 90, mais qui va diriger Wagner et imposer Wagner à l'Opéra de Paris dans les années 1900.
Alors 1910. Cet homme extrêmement élégant dans le style et si complet dans tous les styles, c'est l'auteur de Véronique, qui est produit en 1898, Liliane Berdon avec Willy Clément. Et nous sommes toujours en compagnie de l'orchestre lyrique de la radio sous la direction de Jules Gressier.
Ah, cette valse délicate, suggérée avec ce personnage féminin, Hélène de Solange, Véronique. Donc, Véronique, je crois que c'est une des premières opérettes qui porte le nom, le prénom d'une femme. Le thème, c'est une provinciale qui monte à Paris, qui passe pour godiche, que personne n'attend, et qui déjoue les projets malsains de son promis, un aristocrate dégénéré. Alors, deux choses. Donc, cette provinciale que personne n'attend et qui monte à Paris, elle est inséparable d'un phénomène industriel de l'époque, c'est le rail, le chemin de fer et la mobilité sociale aussi. On monte à Paris, on est au tournant du siècle, et elle a un côté François Fillon, cette Hélène de Solange.
François Fillon.
Fillon, oui. Donc, on ne l'attend pas, elle passe inaperçue, elle est toute réservée, toute prude, mais en même temps, elle sait manier les hommes, elle sait manier l'argent.
Et c'est comme chez François Fillon, il n'y a rien de trivial ni de cocasse.
Ah ben non, vous avez entendu le rire, Jean Lebrun, on est entre gens du même monde.
Oui, d'ailleurs, la critique a parlé pour Véronique d'une œuvre au ton discret de fine aquarelle. Hein, ça rend bien à ce qu'on dit. Moi, j'ajouterais un mot sur le fait qu'on voit bien, d'ailleurs, ça a été un peu illustré aussi avec la fille de Madame Angot, que l'opérette aime bien se pencher avec une certaine nostalgie sur le passé. Et là, c'est vraiment la France de 1900 qui pense à la monarchie de Juillet, qui pense à la garde nationale qui n'existe plus de 70, qui pense à la royauté qui n'est plus un danger, aux grisettes, aux boutiquiers à l'époque des grands magasins. Donc, il y a cette forme de nostalgie, de regard rétrospectif qui est très fort dans ce répertoire.
Ne voyez nul propos politique dans ce que vient de dire Jean-Claude Dion. La même élégance chez Reynaldo Hahn, même époque.
Oui, enfin, là, on est déjà pour Alain Noan un peu plus tard, et on est dans l'entre-deux-guerres, à une époque où là, l'opérette française doit lutter à la fois contre l'opérette viennoise, dont on a déjà parlé, mais je crois qu'on n'a pas cité le nom de Franz Lehár et la Veuve Joyeuse qui, avant-guerre, impose un style d'opérette, et puis aussi contre l'arrivée des rythmes de jazz, des rythmes américains.
Madame la comtesse de Castiglione, mourra d'un avoir un amour qui sera à confiant soumis discret, un amour qui ferait sans demander de compte à tout ce que je voudrais. Mais hélas, où trouver cet amant exemplaire? Mais non, que j'adorerais.
La marche de l'histoire sur France Inter.
Pour une bouffe.
Oh, monsieur le directeur,
une surprise.
Oh, dites-la. Oh. Allez, dites-la.
Tout à l'heure, pour la première fois, une divette qui ce soir, grâce à vous, sera célèbre.
Qui est-ce?
Oh, une jeune Espagnole, une petite rose de Castille, qui chante en français sans aucun accent.
Ah. Jérôme Deschamps est dans le rôle d'un directeur à l'oreille peu sûr qu'il compte embaucher. Michel Faux, parce que c'était Michel Faux qu'on entendait si bien chanter. C'est une façon de servir Ciboulette de Reynaldo Anne.
Oui, Michel Faux, que j'ai connu à la sortie du conservatoire, déjà déjanté et prêt à tout. Alors, Ciboulette, Reynaldo Anne, bon, alors c'est 1923, on est au sortir de la guerre. Alors certes, comme le dit Jean-Claude, c'est rétrospectif, on est sous le Second Empire, mais avec un phénomène nouveau, c'est que cette marchande de légumes, qui se fait appeler Ciboulette, qui est à la recherche d'un mari... Après-guerre, il y a eu des coupes sombres, beaucoup d'hommes sont tombés sur les champs de bataille, et phénomène assez nouveau dans le monde de l'opéra comique, elle arrive à épouser au-dessus de sa condition Anthony de Mourmelon.
On n'est plus sur le même palier.
Et alors cette opérette, évidemment, elle a quelque chose de très nostalgique, et elle fait l'impasse sur un autre phénomène, qui est l'arrivée du jazz. Entre-temps, il y a eu Maurice Yvain, Pas sur la bouche, les rythmes syncopés, et là, on est dans le monde d'avant, le monde délicieux de Reynaldo Anne.
Alors justement, Maurice Yvain, je parlais dans le chapeau de cette émission du sens caché de Pas sur la bouche. Il y a eu Ta bouche en 1922, il y a eu Pas sur la bouche en 1925. Il y a un sous-texte dans Pas sur la bouche, mais je ne vais pas vous le faire expliciter, Jean-Claude Dion. Il y a toujours un côté illégitime, néanmoins, dans la musique que recommande Maurice Yvain.
Enfin, ce côté illégitime, c'est cette arrivée du jazz qui change le rapport que les corps ont entre eux. Avec le jazz, on ne danse plus comme avant. Soit les corps se frottent avec le slow, soit ils gigotent avec le foxtrot. Pas sur la bouche, c'est l'américain qui débarque. Il y a toujours un double sens, n'importe comment. Ils sont puritains, mais en même temps, pas vraiment.
D'ailleurs, il y a une offre qui symbolise bien ça, c'est Fifi, qui en plus est créée le 12 novembre donc 1918, juste à la toute fin de la guerre, au Bouffe Parisien de Christine et Villemetz, où effectivement on va avoir ces rythmes de one-step, de foxtrot, etc. Un critique disait d'ailleurs « costume grec, esprit gaulois, musique française, danse anglaise ». Donc ça résume assez bien ce nouveau cocktail de cette opérette entre deux guerres.
Dépression, Seconde Guerre mondiale... Changement de décor. Nous voici maintenant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Mexico, Mexique. Lumière, s'il vous plaît.
Maurice Lehmann, qui va prendre la direction du Châtelet, d'ailleurs dès avant la Deuxième Guerre mondiale, et le faire triompher comme un temple tout à fait exceptionnel dans les années d'après-guerre, c'était Jean-Claude Dion, quelqu'un qui adaptait les méthodes de la comédie musicale américaine.
Oui, c'est un formidable entrepreneur et on voit bien à travers toutes les figures qu'on évoque qu'on est là aussi dans une forme de spectacle commercial avec une efficacité formidable. Et donc Maurice Lehmann, avant de trôner au Châtelet, il y est resté très longtemps puisqu'il a été directeur de 1929 à 1965. Il avait dirigé la Porte Saint-Martin, l'Ambigu, la Renaissance, Mogador et j'en passe. Il a un savoir-faire extraordinaire et notamment, comme vous venez de le dire, il va chercher en Amérique de nouvelles formes qu'il francise et qu'il impose à un public français.
Avec de grands formats.
Avec des formats énormes. Et là, en plus, il retrouve l'histoire même du Châtelet, qui effectivement, depuis son ouverture en 1862, est le temps du grand spectacle. Le Châtelet, en fait, on l'a construit pour récupérer le cirque olympique, mais à un moment où ce type de spectacle ne pouvait plus se donner, donc on savait pas trop quoi en faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a appelé Châtelet, parce que on pouvait pas lui donner le nom d'un genre, on a donné le nom du lieu, on savait pas trop ce qu'on y ferait. Et c'est quand même le lieu où notamment s'est donné à partir de 1867 le Tour du Monde en 80 jours, qui est le grand spectacle extraordinaire qui, par bien des côtés, annonce les grands spectacles de Lehmann au Châtelet.
Oui, et puis après-guerre, le Châtelet, c'est le spectacle familial par excellence. C'est là où on emmène sa promise quand on veut lui faire un beau cadeau, lui montrer qu'on a des lettres, et surtout quand on vient de milieu populaire, et surtout quand on vient de l'étranger. C'était le cas de mes parents. Par exemple, voilà, mon père a emmené ma mère au Châtelet et de ce fait, c'était le néo-français qui voulait montrer à la néo-française qu'il avait les clés du code. Et dans mon enfance, j'ai entendu La Route Fleurie.
La Route Fleurie.
La Route Fleurie, oui, c'est Guettari qui chantait avec...
Ça donnait quoi ?
Bourville. C'est la vie de bohème, la vie sans façon, la vie de garçon, la vie de patapatachon. C'est la vie que l'on mène quand on a 20 ans et que nous menons plus longtemps. Voilà, donc il y avait cette espèce de petite légère transgression, bon, moi qui me parle encore, un côté ni vieux ni maître, si vous voulez.
Et ceux qui étaient derrière leur poste de télévision ne prenaient pas le chemin de fer, n'allaient pas à Paris, pouvaient visiter en compagnie du regretté Pierre Tchernia. Nous sommes ici à la télévision en 1960, les coulisses du Châtelet.
Nous étions il y a un instant sous la scène du Châtelet et maintenant nous repassons sur la scène. Cette scène qui est la plus grande de Paris après l'opéra. 35 mètres de profondeur, 3 étages de cintre, 3 étages de dessous. C'est une véritable usine à spectacle. Les hommes qui sont là peuvent à volonté, et sans voir le spectacle d'ailleurs, simplement commandé par un régisseur, ils peuvent à volonté faire naître le soleil, la lune, le crépuscule, l'aube, sur les décors qui se présentent devant les spectateurs. Ici, vous êtes monté dans les cintres. Vous savez que les cintriers sont des hommes de grande expérience qui doivent savoir au bon moment faire descendre une toile qui va créer sur la scène du Châtelet le décor, le trompe-l'œil, l'illusion dont les spectateurs ont besoin.
Top chrono. Mexi.
Maintenant 5 secondes que Daniel Balavoine tient le compte-rute.
Léon, on nous appelle de Paris.
15 secondes.
C'était absolument étonnant, mesdames et messieurs.
15. Va, il a battu un record.
Et oui, Balavoine qui, dans le tribunal des flagrants délires, reprenait le rôle créé en 1951 par Luis Mariano.
Alors là, on est dans la grande époque du Châtelet d'après-guerre, hein, avec effectivement ce couple Mariano et Francis Lopez, donc le compositeur, et puis la star, le ténor, qui en plus va aussi faire carrière au cinéma, parce que... tout ce répertoire d'opérette se concrétise aussi dans des films comme la comédie musicale américaine au même moment, et on retrouve donc cet exotisme un peu toc de...
Francis Lopez est le fils d'un dentiste péruvien.
Oui, bien sûr, mais je ne ferai pas quand même, je ne découvrirai pas l'histoire du Mexique à travers le chanteur de Mexico de façon
savante. Comment la baie d'Acapulco, le marché aux fleurs de Mexico.
Bilou, Cri-Cri.
Oui.
On entendait Bourville tout à l'heure.
C'est très anti-américain, vous avez remarqué. Les Norvégiennes ont le sang chaud. Bien que les Américaines soient souveraines, on oublie tout sous le beau ciel de Mexico. Vous n'avez pas senti cette allusion politique?
Oh, ça va très vite, hein. Personne ne le sent.
2,5 millions de spectateurs et la nécessité, vous l'avez bien expliqué, Jean-Claude Dion, d'emboîter dans les productions, les perspectives cinéma et les perspectives de long-seller que doit avoir le spectacle, puisqu'il faut quantité de représentations pour rentabiliser.
Oui, et alors là, on parlait de Luis Mariano, mais on peut aussi évoquer Tino Rossi avec Méditerranée, parce que vraiment là, on a cette figure du chanteur de charme, aussi un peu du Latin lover, à différentes modes, qui marque ce répertoire.
Ce sont des colosses au pied d'argile quand même, ces spectacles, parce que à partir des années 60, vous disiez que Lehmann quitte le Châtelet en 1965, la concurrence est extrêmement forte.
Je crois que ça correspond à une économie différente du spectacle. Dans ces opérettes, tout comme dans les revues, il y a un pari tenté. Le pari tenté, c'est celui d'une chanson phare qui va lancer le spectacle, qui va le représenter, qui plus tard va être repris dans des produits dérivés ou peu s'en faut. Il y a aussi la question des chanteurs à accent. Ça, il y a une longue durée qui va jusqu'à aujourd'hui, Richard Cocciante, des chanteurs qui plaisent aux ménagères, quel que soit leur âge. Mais là, c'est vrai que dans les années 60, arrive quelque chose qui va tout foutre en l'air, si je puis dire. C'est le rock, c'est des mœurs nouvelles qui sont vraiment en contradiction avec tout ce qu'on peut voir sur ces scènes.
Encore que Luis Mariano, il partageait ces mœurs que vous dites nouvelles, mais il n'en parlait pas.
Non, privé. C'était le jardin secret que peu connaissaient. Mais en tout cas, le public se segmente à ce moment-là. Donc il y a quelque chose qui est fondamental aussi dans toute cette histoire de l'opéra, de l'opérette ou de l'opéra comique. On y va en famille. Et là, évidemment, avec le yéyé, comment emmener un adolescent au Châtelet, un adolescent qui aime Johnny? Impossible.
Donc, il arrive à ce type d'opérette. D'autres peuvent se renouveler. Le pire, le public est connoté vieux, provincial. On vient par le chemin de fer de province. Et pis encore, populaire. Alors, ça vient d'où le renouveau de l'opérette? En revanche, qu'est-ce qu'on peut espérer de l'opérette? Cette source-là, celle de Lopez et Mariano, étant définitivement tarie.
Ah ben ça, on la reverra, parce que l'opérette connaît aujourd'hui un renouveau extraordinaire sous la forme de la comédie musicale qui remplit le Palais des Congrès, qui remplit le
Palais des Sports. Vous voulez dire Arena, Accor, Bercy, quoi.
Oui, ouais. C'est ça, oui, avec la même... Alors là, on retrouve le public populaire, encore une fois, les familles qui viennent avec les gamines qui attendent les vedettes à la sortie.
Eh bien, le dernier épisode va être consacré à la comédie musicale, à la française et puis surtout à l'américaine en votre compagnie. Jean-Claude Dion, Philippe Gimplowitz, l'émission a été préparée par Martin Cellier avec la réalisation Stéphane Ronxin et la technique c'était Anne-Laure Cochet.